Salut à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Point de vue, votre tour de l'actualité locale au pays. Aujourd'hui, l'art retrouve sa place à la maison Saint-Dylon de Natashquan au Québec.
La maison Saint-Dylon, dans le fond, c'est une maison qui est remplie d'histoire. C'est la fameuse maison de la chanson de Mignon, c'est bourré d'une énergie là, vraiment inspirante.
Les Français célèbrent le 14 juillet au 38e ciel nord-est au chic de Toronto.
C'est une fierté de voir que malgré qu'on soit à l'étranger, que cette fête ait lieu et est célébrée ici à Toronto.
Anna Fulton Johnson est élue par acclamation dans Miramichi West. Elle représentera le Parti libéral lors des prochaines partielles.
On a un candidat formidable avec Anna Fulton Johnson qui connaît la région, son cœur est dans la région.
Face aux menaces américaines, les provinces et territoires décident d'être leurs meilleurs clients. Le Nouveau-Brunswick s'ouvre aux marchés intérieurs canadiens.
Au total, il y aura 9 provinces et un territoire, incluant le Nouveau-Brunswick, qui vont faire partie de ce projet-là.
Le fédéral accorde 78 millions de dollars pour soutenir les soins de santé en français hors Québec. L'Université de Moncton obtient la part du lion.
On devrait voir d'ici 2-3 ans un plus grand accès, à mon avis, au niveau des services de santé.
Et un jardin communautaire naît dans la petite localité de Limoges, en Ontario.
Nous, on partage entre nous. C'est pas quelque chose d'individuel. Les gens sont très ouverts.
Point de vue, l'info locale pour vous partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, merci d'être là. Un plaisir, comme toujours, de vous savoir avec nous. Boris Chassagne au micro avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, nous serons-elles des voyageurs sans itinéraire précis? On va se déplacer dans le désordre d'un bout à l'autre du pays pour d'abord vous faire visiter les bords de mer de Natashquan sur la côte nord du Québec, où l'art reprend enfin vie à la maison Saint-Dylon. Ça, c'est parce qu'on a eu des nouvelles d'une de nos ex-journalistes, Frédéric Lévesque, qui a été interviewé par celle qui l'a remplacé à son poste de tête à la baleine, Marie-Ève Dussablon. Depuis le début du mois de juillet, Frédéric s'est installé à la maison Saint-Dylon à Natashquan, une maison patrimoniale qui accueille pour la première fois depuis 3 ans une résidence artistique multidisciplinaire. Ceci grâce à la collaboration entre Panache Art Actuel, basé à Sept-Îles, et le journal communautaire Le Portageur. Roberto Santaguida, artiste en art visuel, et Frédéric Lévesque, bien connu à tête à la baleine pour son engagement culturel et son travail à la radio communautaire CJTB, eh bien, ils ont été sélectionnés. Ils ont en commun une fascination pour les archives, un terrain de jeu fertile qui oriente leur recherche artistique et qu'ils vont tous deux présenter au public le 31 juillet prochain. Marie-Ève Dussablon les a eus au bout du fil.
Depuis le début du mois de juillet, l'art prend forme à la Maison historique Saint-Dylon située à Natashquan. La maison accueille cet été une résidence artistique multidisciplinaire, une collaboration entre Panache Art Actuel de Sept-Îles et le journal communautaire Le Portageur. Une première depuis 3 ans. Annie-Jade Creamer-Étier, directrice du journal Le Portageur.
Pour moi, c'est important de ramener ça dans la maison Saint-Dylon parce que je suis issue du milieu culturel. Je suis artiste de formation, j'ai un baccalauréat en art visuel à l'UQTR. J'ai l'organisme Le Portageur à cœur, qui est à la base un journal communautaire, mais aussi un organisme culturel dans le village de Natashquan, puis dans la région de l'Est de la Mingani. Et puis la Maison Saint-Dylon, dans le fond, c'est une maison qui est remplie d'histoire. C'est la fameuse maison de la chanson de Mignon, où les danses se passait. Il y avait des grosses soirées qui pouvaient durer apparemment 24-48 heures. Et c'est bourré d'une énergie là, vraiment inspirante.
Pour cette résidence qu'on souhaite reproduire 2 fois par année, une en été et une autre en hiver, un ou un duo d'artistes en création littéraire et en création visuelle était recherché. Parmi les noms retenus, Roberto Santaguida, artiste en art visuel, et une personne bien connue de tête à la baleine, Frédéric Lévesque. Un maillage parfait puisque les deux s'intéressent aux archives.
C'est l'idée de jumeler 2 artistes issus de 2 médiums différents, donc la création littéraire puis l'art visuel. On était ouvert à avoir des duos d'artistes déjà formés, mais on a fini par faire justement Frédéric et Roberto. qui ne se connaissaient pas. Puis c'était dans le but de créer, de les lancer ensemble dans cette résidence de recherche-là, là. Sans nécessairement attendre un résultat final, mais de pouvoir voir qu'est-ce qui découle de cette collaboration.
C'est via une publication sur les réseaux sociaux que Frédéric a entendu parler de cette résidence artistique. Une première pour elle, qui a décidé d'explorer les droits liés aux archives.
Pour moi, cette résidence-là, c'est vraiment l'occasion d'explorer plus en détail la réutilisation et la réappropriation d'archives personnelles qui ne nous appartiennent pas. Donc, quand je dis archives personnelles, je pense à des albums photos, je pense à des lettres échangées, je pense à des vidéos de famille, tout ce qui est qu'on met dans notre grenier, qu'on entrepose. Mais moi, ces archives-là, ben, je les trouve dans des comptoirs familiaux, dans des ou même des fois par hasard. Donc là, l'archive sur laquelle je travaille en ce moment, en particulier, c'est une cassette vidéo des vacances familiales sur la Côte-Nord dans les années 90. Puis j'ai trouvé ça par terre à Montréal par hasard il y a des années. Wow. J'ai été touchée par ces archives-là parce que, bon, je pense qu'il y a quelque chose d'assez universel dans les souvenirs de vacances en famille, des choses qui nous touchent, même si on n'est pas directement impliqué, ben ça nous renvoie, je pense, à nos propres souvenirs. Puis je me suis demandé, ben comment je peux intégrer ça dans une création, mais d'une manière sensible, dans le respect de l'intimité d'une personne. Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, je suis vraiment en train de lire la... Mais en parallèle, je fais aussi une enquête pour retrouver cette famille-là, puis de leur redonner cette archive-là, puis de discuter avec eux de ce que ça représente pour eux, finalement, cette vidéo-là. Puis au travers de ça, ben moi, j'écris. Fait que je vais écrire un texte sur tout le processus. Je ne sais pas encore la forme que ça va prendre.
La maison Saint-Dilon et le village de Natashquan, situé en pleine nature avec ses plages à perte de vue, ont aussi grandement influencé son travail.
C'est sûr que la proximité avec un beau paysage, des marches sur la plage, au large, c'est très, très inspirant, très propice aux réflexions. C'est vraiment une belle vie communautaire à Natashquan, surtout avec les souris. C'est presque la salle communautaire du village, en fait, là. Alors, il y a beaucoup d'événements, puis ça permet de créer des liens aussi avec les gens, plus dans l'informel. Mais moi, c'est sûr que j'ai toujours en tête ce sujet-là, des archives, des souvenirs de famille. Fait que ces discussions-là me donnent toujours des pistes, puis ça mijote. Puis après ça, ben j'y repense, puis finalement, ben j'ai une idée qui émerge de ça. Le fait d'être à Natashquan, il y a cet aspect-là du sable, du vent. C'est comme un peu des signes du temps qui passe, c'est l'érosion aux archives analogues qui ont tendance à se détériorer. Ben, qui se détériore, en fait? Puis les souvenirs aussi, ça devient de moins en moins clair avec le temps. Fait que de combiner ça peut-être avec l'érosion, puis Natashquan est très, très en proie, finalement, à l'érosion côtière. Là, on s'appelle qu'en avril dernier, il y a eu pour justement prévenir ça dans trois villages, dont Natashquan. C'est une réalité qui est quand même très présente pour le village.
Une présentation des travaux en cours est prévue à la fin de la résidence, soit le 31 juillet, en Formule 5 à 7, à la Maison Saint-Dilon. Ici Marie-Ève Dussablon pour l'IGL, à tête à la baleine.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Politique maintenant pour vous dire que les jeux sont faits. Anna Fulton-Johnson représentera le Parti libéral dans Miramichi West, le Parti libéral du Nouveau-Brunswick qui met ainsi la table pour la future élection partielle. Dans cette circonscription, elle devrait y affronter quelque part cette année le conservateur Mike Dawson qui a réussi son saut en politique fédérale, l'ancien député Maurice Vernon Green et celui qui a soumis la candidature de Mme Johnson, laquelle a ensuite été élue par acclamation. Mme Johnson, qui cumule près de 20 ans d'expérience en politique municipale et provinciale, tentera de reprendre cette circonscription passée aux mains des conservateurs. Les libéraux qui la lorgnent depuis leur défaite en 2010. La date de la partielle n'a pas encore été fixée, mais c'est bien pour cette année. Les précisions de Vincent Lavoie.
L'élection partielle dans la circonscription de Miramichi-Ouest se met en branle. Le Parti libéral du Nouveau-Brunswick a réuni plusieurs membres de son caucus à Blackville samedi pour officialiser la candidature de Hannah Fulton Johnson. Elle occupait le poste de directrice générale du parti depuis bientôt 3 ans. Issue d'une famille dédiée au service public, elle fait partie des architectes de la renaissance du Parti libéral suite à ses 2 défaites consécutives. Ayant accompli cette mission, elle souhaite maintenant représenter la région qu'elle habite depuis 18 ans au sein du parti au pouvoir. La première ministre Susan Holt, présente pour l'événement, affiche un optimisme assumé en vue de la campagne.
On a un candidat formidable avec Hannah Fulton Johnson qui connaît la région, son cœur est dans la région. Et en partenariat avec notre gouvernement, je suis certaine qu'on peut avancer les priorités de cette région, d'avoir des cliniques communautaires pour des soins, d'améliorer leurs infrastructures municipales et de créer des types d'emplois qui vont payer bien et enlever des choses comme le coût sur les factures d'électricité. Alors, on a la bonne candidate. Notre gouvernement fait du progrès. Moi, je veux que Miramichi West fait part de ce progrès.
Toutefois, les libéraux font face à un certain défi. Les élections partielles connaissent souvent un taux de participation bas. La circonscription a élu un député conservateur, en la personne de Mike Dawson, avec 57 % des voix. La première ministre ne prend pas la date de l'élection à la légère. L'élection doit être déclenchée au plus tard en octobre.
On n'a pas confirmé une date à ce point, alors ça va venir et on sait la date limite. On est dans le processus de choisir le meilleur pour tout le monde, pour que c'est accessible. On va voir beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent voter, alors on va le choisir tantôt.
Quant à la principale intéressée, elle est très fébrile de faire le saut en politique de première ligne.
C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui avec such un groupe énergique. C'est un après-midi à samedi et les gens avaient beaucoup de choses à faire et ils ont choisi de prendre du temps avec moi aujourd'hui pour ceci et je suis excitée de... Allons-y!
La candidature progressiste conservatrice pour la circonscription ne se fera pas attendre. Les membres du Parti progressiste conservateur sont conviés le 24 juillet à la Légion de Doctown. Ils se mettent en voie pour IJL à Miramichi.
Ottawa et les gouvernements provinciaux et territoriaux se retroussent les manches depuis la dernière élection présidentielle américaine et l'imposition de multiples tarifs douaniers. La diversification des marchés canadiens est devenue le nouveau mot d'ordre. Le Canada, ses provinces et territoires qui sont plus que jamais à la recherche de nouveaux débouchés commerciaux s'entendent pour être leurs meilleurs clients et se disent qu'il est peut-être temps de réduire les barrières commerciales qui briment leurs échanges. Le Nouveau-Brunswick, dont le commerce extérieur est l'un de ceux qui dépend le plus de ses voisins américains, a décidé d'ouvrir ses marchés aux autres provinces du pays. En fait, la province fait ses premiers pas sous ce nouveau mode opératoire en assouplissant notamment les règles concernant l'exportation et l'importation d'alcool. Des lois ont été abrogées. Désormais, les fabricants néo-brunswickois pourront vendre de l'alcool directement aux Canadiens des autres provinces avec l'accord de ces dernières. Et les citoyens de la province pourront aussi ramener du Québec et d'ailleurs des bouteilles d'alcool destinées à leur consommation personnelle. Ici, un extrait de la conversation entre Michael Robitaille à Edmundston et Jean-Claude Damour, ministre des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick.
La première des choses, on appelle ça la vente directe aux consommateurs, qui veut dire qu'on a travaillé avec d'autres provinces à identifier quelles seraient les provinces intéressées à participer à ce projet-là. Donc, au total, il y aura 9 provinces et 1 territoire, incluant le Nouveau-Brunswick, donc 10 juridictions à travers le Canada qui vont faire partie de ce projet-là. Comme des raisons, certaines provinces vont adhérer plus lentement que d'autres pour diverses raisons basées sur leur réalité personnelle. Mais nous, le Nouveau-Brunswick, j'ai signé l'entente avec certains de mes collègues à l'Assemblée législative à la fin de juin. Et puis, on est en processus actuellement de faire les modifications législatives au niveau des lois, au niveau des règlements, parce que la loi est déjà passée depuis le mois de juin. Puis en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les producteurs d'alcool du Nouveau-Brunswick pourront vendre directement à un citoyen d'une autre province qui va faire partie du projet, du programme de la vente directe aux consommateurs, qui veut dire que ça permet à certains, qui va permettre à nos entreprises au niveau des produits d'alcool de pouvoir vraiment avoir un accès à un marché qui était jusque-là relativement difficile, surtout quand on regarde, souvent essayer de faire affaire avec une autre province ou une autre société des alcools, mais ils demandent un certain volume, il y a de la complexité. Les commentaires que nous avons reçus jusqu'à date sont très positifs. Et puis, au fur et à mesure que des provinces vont s'ajouter, c'est certain qu'on va aviser tout le monde, qu'on puisse, quand je parle de tout le monde, on va aviser les producteurs d'alcool pour leur donner les opportunités de commencer à faire du démarchage et puis de vendre directement dans les autres provinces à un particulier à sa maison.
Monsieur Damour, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Vous venez d'entendre Jean-Claude Damour, qui est ministre des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick.
Michael Robitaille, Edmundston, pour IGL.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@commercialfréquenceinfo.ca.
Politique toujours, la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, était de passage à l'Université de Moncton pour annoncer un investissement de 78 millions de dollars pour améliorer l'accès aux soins de santé en français hors Québec. 32 millions de dollars seront versés à 5 établissements post-secondaires du Canada Atlantique sur une période de 5 ans et 14 de ces 32 millions iront à l'Université de Moncton. Des fonds qui devraient lui permettre d'augmenter le nombre de places disponibles dans 6 de ces programmes liés à la santé, les soins infirmiers, la psychologie, le travail social, la nutrition et la gestion des services de santé et médecine. Le recteur de l'Université de Moncton, le docteur Denis Prudhomme, s'est réjoui de cet appui qui, selon lui, aura des retombées immédiates. Il précise que 94% des diplômés en sciences infirmières restent dans la province après leur diplomation. Les trois quarts d'entre eux s'établissent dans des régions rurales. Ici, un extrait de ses propos recueilli par Sébastien Caron à Fredericton.
Cette année, les 15 nouveaux sièges qui ont été offerts sont déjà comblés. Puis le programme compte actuellement 55 personnes étudiantes, dont la majorité provient du Nouveau-Brunswick. Un fait encore plus important est que 17 de ces personnes diplômées lors des deux dernières années ont eu un taux de réussite à leur examen national de 100 %. Et ça, c'est un reflet de la qualité de la formation qui est offerte par les membres et les partenaires cliniques de notre École des sciences infirmières, mais surtout à cause du soutien additionnel financier du Consortium national de formation en santé. De plus, 94 % de celles-ci pratiquent ici au Nouveau-Brunswick et dont 76 % dans les régions rurales. Si je prends par exemple notre programme de maîtrise en sciences infirmières, il y a déjà 17 diplômés qui travaillent sur le terrain dans les différentes régions. 74 % d'eux travaillent dans les milieux ruraux. Donc, ça fait depuis 3 ans qu'on a augmenté le nombre de nos étudiants dans nos différents programmes. Donc, on devrait voir, on le voit cette année, au-dessus d'une centaine d'infirmières qui ont gradué, et ça va être comme ça pour les prochaines années. Donc, on devrait voir d'ici 2-3 ans un plus grand accès, à mon avis, au niveau des services de santé, et ça dans les différentes disciplines de la santé.
Est-ce qu'on peut envisager par la suite d'avoir des initiatives qui seraient prises pour inciter le personnel formé à s'installer dans des secteurs doublement minoritaires comme peuvent l'être Saint-Jean, Miramichi ou Fredericton? On écoute le docteur Denis Prudhomme.
Ce qu'on observe dans nos données, c'est que dans tous nos programmes de santé, dans le dernier rapport du consortium de formation, si mes chiffres sont, ma mémoire est bonne, c'est au-delà de 92 % de nos gradués qui travaillent au Nouveau-Brunswick, et tout près de 118 % retournent normalement dans leur région d'origine. J'ai pas les données par rapport aux régions que vous mentionnez spécifiquement, mais c'est des choses qu'on regarde, puis on va sûrement faire justement des tentatives de recrutement dans ces régions-là, puisqu'on sait que si on les recrute dans ces régions-là, qu'on les forme ici au Nouveau-Brunswick, il y a bien des chances qu'on les garde puis qu'ils reviennent dans leur région pour offrir des services de santé de qualité.
Avec cet investissement, Ottawa espère former une nouvelle génération de professionnels de la santé capables d'offrir des soins dans la langue de leurs patients partout au pays. Au Nouveau-Brunswick, les établissements francophones disent déjà être en action et promettent des retombées concrètes d'ici les prochaines années, y compris dans les régions rurales et doublement minoritaires. Ici Sébastien Caron pour IGL à Fredericton.
We'll be right back. Les Français et francophiles de Toronto ne se sont pas fait prier pour célébrer leur fête nationale du 14 juillet sur les terrasses au sommet de la ville reine, en fait au 38e étage du restaurant Aera, lors d'un événement organisé par Apéro Chic. Peggy Harvey, fondatrice d'Apéro Chic, organise depuis 14 ans des soirées qui réunissent la communauté internationale de Toronto autour de la culture française. L'édition du 14 juillet 2025 a rassemblé près de 500 personnes, francophones et francophiles, venues célébrer ensemble un moment de convivialité aux couleurs de la France. Annette Minka ne s'est pas fait prier non plus pour y aller.
La fête nationale française s'est invitée sur les toits de Toronto cette année. Le 14 juillet, l'organisme Apéro Chic organisait son traditionnel Bastille Day sur la terrasse du restaurant Aera, en plein cœur de la ville reine. Au programme, musique francophone et internationale, conversations en français et en anglais, bouchées gastronomiques et verres levés, l'événement a rassemblé des francophiles et francophones, dont de nombreux Français fièrement réunis pour célébrer cette journée spéciale.
C'est un moment de partage avec tous les Français et d'autant plus ici à Toronto, j'ai pu remarquer qu'il y avait quand même une forte communauté française. Donc ça fait quand même chaud au cœur de pouvoir partager ce moment-là auprès des nôtres.
Même sentiment du côté d'Armel, qui vit à Toronto depuis seulement 2 semaines.
C'est une fierté de voir que malgré qu'on soit à l'étranger, que cette fête ait lieu et est célébrée ici à Toronto, parce que ça reste comme quand même le jour national en France. Et moi, étant donné que je suis de Paris, j'attache toujours un honneur et une importance à ce jour-là, parce qu'il est marqué dans l'histoire et à vrai dire, c'est un jour spécial pour nous.
Une fierté partagée aussi par Chris Loco, Français d'origine camerounaise, qui souligne l'importance de représenter toutes les facettes de la communauté française.
En juillet, on sait tout, hein, c'est la libération avec la prise de la Bastille. Donc voilà, on réouvre les bouquins de l'école, mais en gros, ça représente pour moi c'est la célébration et surtout se retrouver en Amérique du Nord, dans une configuration francophone, où on peut célébrer ensemble et célébrer le drapeau tricolore, en fait. Et peu importe la couleur dont on a, quand on est français, on est un français.
Pour beaucoup, les événements comme celui d'Apéro Chic permet de se reconnecter le temps d'une soirée à un certain art de vivre à la française. Dio, habitué des lieux, ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde.
Je viens chaque année à chaque événement et surtout le Bastille Day, parce qu'en fait, voilà, pour moi le 14 juillet, c'était pas vraiment un moment très fun, parce que bon, comme moi je viens du 93 en France, donc quand on sortait pour le 14 juillet, c'est toujours compliqué, parce que on n'était pas vraiment accepté dans les différents événements qui avaient lieu. Et en arrivant ici au Canada, à Apéro Chic, c'était un événement tellement inclusif que ça m'a réconcilié en fait avec la fête de la Bastille.
Et c'est justement l'ambition de Peggy Harvey, fondatrice d'Apéro Chic, créer des événements à la fois festifs, inclusifs et empreints de la culture française.
J'ai toujours trouvé qu'il y avait une sympathie pour la culture française chez les anglophones à Toronto. Enfin, j'aime pas dire anglophone parce que, en fait, on sait que 51% de la population de Toronto n'est pas née au Canada. Donc, je dis pas francophone versus anglophone. Pour moi, c'est international avec une touche française. Après la soirée Bastille Day, on va trouver plus de Français. Mais si vous venez à d'autres soirées Apéro Chic en dehors de la soirée blanche et du Bastille Day, on va être plus anglophone dans le sens où ça va être la langue plus commune du niveau international. Apéro Chic est international.
Et pourquoi le 14 juillet ? La réponse est simple.
Parce que je suis française et que c'est une célébration.
Après le Bastille Day, un autre événement est déjà en préparation, une soirée blanche inspirée des traditions de Saint-Tropez, prévue le 18 août, le tout encore une fois sur les hauteurs de Toronto. C'était un reportage d'Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.
« Et pour conclure l'émission, on passe en mode jardinage pour vous parler de la mise en place d'un nouveau jardin communautaire à Limoges, en Ontario. Limoges, c'est au sud-est d'Ottawa, un endroit où les francophones forment le 2/3 de la population. Une petite communauté de 2000 habitants, selon le recensement de 2016. Eh bien, ce nouveau jardin communautaire sera cultivé sur un terrain qui appartient à la municipalité de La Nation. Richard Hess, instigateur du projet, explique s'être inspiré de son expérience au jardin communautaire d'Orléans, Ottawa, où il a pu constater les bienfaits qu'ont ces jardins sur le bien-être des résidents. Ici, un extrait de sa conversation avec Rose Grezla à Embrun.
L'idée est née parce qu'on a vu un autre jardin communautaire dans notre localité. C'est en fait la localité d'Orléans. Et on était membres à Orléans pour le jardin communautaire. Et je pense que c'est quelque chose qui peut rapprocher les gens et peut aussi aider pour avoir une meilleure solution pour passer le temps libre, en fait, d'ajouter un peu de quelque chose de productif dans leur vie aussi, dans le temps libre, et aussi cultiver une activité comme ça qui est très payante, en fait. Travailler avec les légumes, la nature, les gens. Mais on a beaucoup de tomates, on a mis de citrouilles, on a mis de ail, on a mis de patates aussi, pommes de terre, en fait. Qu'est-ce qu'on a vu encore? On a mis des choux. En voyant aussi que le terrain ici à Limoges, c'est très sable. Il y a beaucoup de sable. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste mettre beaucoup de compost ou aussi de terrain noir, la terre noire qu'on a, terre noire de jardinage. On peut aller dans n'importe quel gros magasin de grosse surface qui donne truc de jardinage. C'est presque ça qu'on essaye. On essaye de diversifier aussi. On voit, oh, c'est une nouvelle légume, quelqu'un a mis quelque chose qu'on aimerait, on voit une nouvelle plante, oh, on doit essayer. Et nous, on partage entre nous. C'est pas quelque chose d'individuel, c'est, les gens sont très ouverts de partager, ok, essaye de le planter toi aussi. C'est ça notre esprit, en fait. On essaie de faire un partage de nos légumes, de nos idées, de façons de faire. Exemple, pour les tomates et pour toutes les plantes qui sont très succulentes, qui prennent beaucoup de l'eau. Il y a un problème de rétention dans le sol ici à Limoges parce que c'est très sableux. Mais on a trouvé des façons, surtout on a partagé des idées, on a cherché sur Internet aussi, mais comme tu peux mettre des choses autour pour retenir l'humidité. C'est juste un exemple. Mais c'est ça. Tout le monde peut passer, voir. Ils sont bienvenus pour voir comment ça se passe. Et c'est idéal d'essayer. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oh, mais je n'ai pas le temps. Nous tous, je pense tout le monde qui est dans le jardin, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des travails. Si tu peux investir 2 heures dans ta semaine pour ton jardin, c'est sûr qu'au début, ça prend un peu plus de temps pour préparer ton lot et tout ça. Mais si tu peux mettre 2-3 heures dans une semaine dans un lot, tu peux avoir une belle récolte et tu peux quand même avoir 2-3 heures à l'extérieur.
Rose Grezla, journaliste CJL à Embrun.
Alors voilà qui conclut cette autre édition de Point de vue. Merci à nos journalistes que sont Rose Grezla, Michael Robitaille, Sébastien Caron, Vincent Lavoie, Marie-Ève Dussablon, Yannette Minka, rédaction nationale, Julia Chénu et moi-même, Boris Chassagne, ici à l'animation et à la réalisation. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire et l'initiative de journalisme local. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir tenu compagnie. À la semaine prochaine. Ciao.
Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca.